Nous devons donc aborder cet après-midi et pour cette dernière rencontre de la série une cinquième cause de découragement qui est assez peu abordée dans la vie des églises, puisqu'il s'agit de la question de la fatigue physique, nerveuse, qui souvent d'ailleurs engendre une fatigue morale. Je trouve que c'est un sujet qui colle à merveille pour un dimanche après-midi, après une agape, quand on est en pleine digestion, n'est-ce pas? C'est dur, mais Dieu va nous guider et va nous faire du bien. Nous lisons simplement, toujours dans 1 Roi 19, nous relisons ce verset 10, qui est la réponse d'Élie à la simple question de l'Éternel. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. On pourrait peut-être ajouter simplement, juste avant ce passage, ces quelques lignes, versets 5 et 6, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il a éprouvé le besoin de refaire dodo. Et Dieu a dû le réveiller une seconde fois. Manifestement, nous l'avons constaté déjà dans notre première série, au mois de juin l'an dernier, comme cette fois-ci, l'évaluation de notre ami Élie, parce qu'il est devenu un ami, avec tout ce que nous avons dit à son sujet. L'évaluation d'Élie est fausse. Oh, il y a des choses qui sont exactes. Mais il y a une dramatisation sur toute la ligne. Élie n'est pas seul, et il n'a pas tout Israël sur le dos. Il y a vraiment un problème d'évaluation. Et c'est ce problème d'évaluation qui me fait penser, surtout lorsqu'on lit les chapitres précédents, à partir de la fin du chapitre 16, qu'Élie devait être manifestement dans un état de grande fatigue. Quand on examine la situation politique, sociale, religieuse, qui était celle qui correspond à son ministère, c'était une période difficile, très difficile. Et puis, dans ce cadre très difficile, on peut comprendre qu'Élie craque. Après un temps de grande tension physique et nerveuse. Simplement, les événements du chapitre 18 sur le mont Carmel ont dû être porteurs d'une forte tension. C'était un homme de la même nature que nous. Ce n'était pas un héros, un de ces surhommes dont parlent certaines mythologies d'Antiquité, non. Alors imaginez un petit peu, si vous reprenez tout le chapitre 18, qui se situe à l'issue de plus de 3 années de sécheresse, de famine, de mise à l'épreuve de la foi d'Élie. On imagine l'accumulation de fatigue et de tension dans la vie de cet homme de Dieu. Est-ce dû cet état peut-être également à son profil personnel? On peut se poser la question. Vous savez que en creusant un peu les Écritures, on peut, dans un certain nombre de cas, identifier les profils qu'on appelle aujourd'hui profils psychologiques des personnages de la Bible et réaliser qu'ils appartiennent plus à un type qu'à un autre. Et il semble que Élie ait été plus proche de ce qu'on appelle aujourd'hui les types ou tempéraments mélancoliques, qui se traduisent par une hypersensibilité. En général, une tendance au perfectionnisme, teintée de pessimisme, d'égocentrisme, des tempéraments en général très critiques, très exigeants, des tempéraments qui ont le sens de l'analyse, de l'introspection, qui creusent assez facilement dans le fond de leur propre être en se posant des questions, tempéraments portés au sacrifice de soi, mais aussi, il faut le dire, tempéraments portés plus facilement que d'autres à la dépression. C'est vrai que Dieu nous a créés différents les uns des autres, nous avons des personnalités différentes. Et je suis persuadé, je ne sais pas comment Dieu s'y prend, mais Dieu nous place, nous confie un rôle, une vocation en tant que disciple dans laquelle il tient compte de notre personnalité. Notre personnalité, bien sûr, doit passer par la croix. Il y a tout un travail de purification qui doit s'opérer, mais nous gardons notre personnalité. C'est là la grande différence entre un christianisme biblique et les sectes. Les sectes visent une sorte d'anéantissement de la personnalité individuelle. On doit absolument se couler dans un moule. Et celui qui se refuse à se couler dans le moule de la secte ne peut pas y garder sa place. Je dirais que c'est aussi le problème du monde. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, il est dit que nous ne devons pas nous couler dans le moule de ce monde, mais être métamorphosés par le renouvellement de notre intelligence, de manière à nous épanouir. Et c'est vrai que le monde, lui aussi, fait pression sur nous pour que nous acceptions de nous couler dans son moule. Et je suis heureux d'être disciple de Jésus-Christ parce que être disciple de Jésus-Christ, c'est aller vers l'épanouissement de sa personnalité. Cela me fait penser à ce qui est arrivé à un de mes amis qui, itinérant, était dans le bureau d'un serviteur de Dieu, responsable d'une communauté locale assez importante, et tout à fait accidentellement, puisqu'il était à côté du bureau, il a mis ses doigts sur le fichier de l'église, il a bougé quelques fiches, et puis subitement, il a éclaté de rire. Et le pasteur de l'église locale était quelque peu vexé, se disant, mais qu'est-ce que j'ai pu bien mettre dans mon fichier pour que l'évangéliste itinérant là de passage rie tant. Alors l'autre lui a dit, rassure-toi, rassure-toi, rien de très particulier, mais viens voir quand même. Et Les deux se sont penchés sur le fichier, c'était une boîte avec quelques centaines de fiches. Et puis l'évangéliste a rassemblé les cartes pour que dans la boîte elles prennent le moins de place possible. Et il a dit au pasteur de l'église, écoute, regarde ce qui est écrit au fond. Et au fond de la boîte, il y avait simplement cette indication imprimée, 200 petites têtes de cochon. C'était une boîte de massepain, une ancienne boîte de confiserie qui contenait auparavant 200 petites têtes de cochon en massepain et qui avait suivi, servi ensuite comme fichier. Or, il se trouvait qu'il y avait peut-être comme participant dans cette église l'équivalent en membre d'église. Alors, ce qui est beau, c'est de savoir que nous ne sommes pas 100, 150, 200, 80 petites têtes de cochon, toutes semblables les unes aux autres, que le Seigneur ait fort à faire avec notre propre volonté ou notre volonté propre, oui, ça c'est vrai. Mais en tout cas, Dieu travaille avec notre personnalité, et il a travaillé avec la personnalité d'Élie, fragile dans ce sens, et je dis que ce type de tempérament est plus facilement porté à la dépression. C'est un type de tempérament qui vide rapidement ses réserves d'énergie. En général, ceux qui ont ce tempérament ont besoin de beaucoup plus de repos, de sommeil, que d'autres tempéraments. Cela peut déjà nous aider. Nous pouvons dire, tiens, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai des atomes crochus avec Élie. Mon tempérament collerait assez avec le sien. Et nous devons savoir qu'il est des types de tempéraments qui sont plus fragiles, qui ont moins de résistance, qui ont de grandes qualités, mais le défaut de ces qualités. Ceci dit, ce que j'aimerais surtout souligner, parce que c'est plus important et beaucoup plus important encore, ce sont les dangers d'une fatigue excessive. Les dangers d'une fatigue excessive. Je me suis penché pour la première fois sur la question de la fatigue à l'invitation de Dieu lui-même, entre les mois de janvier et mars 1970. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Tout simplement parce que je suis tombé gravement malade et entre deux hospitalisations, Dieu m'a dit, eh bien, tu vas te pencher sur la question de la fatigue. J'avais du temps, il fallait que je vive au ralenti et j'ai donc essayé de voir ce que la Bible disait de la fatigue. Et je me suis rendu compte qu'elle contenait un message qui est très important pour le disciple de Jésus-Christ. C'est fantastique la Bible, parce que Dieu nous rejoint dans notre réalité de tous les jours. Et j'ai constaté tout d'abord qu'une trop grande accumulation de fatigue était dangereuse. Que c'était un terrain plus favorable à l'ennemi. Ceci en nuançant ma pensée et en soulignant qu'il y a des situations d'exception qui sont dans la volonté de Dieu. Il y a des moments où nous devons effectivement mettre le gros coup de collier. Et nous savons que nous sommes au cœur du plan de Dieu en le faisant. Mais ces situations doivent absolument rester l'exception. Il ne s'agit pas que l'exception d'un programme surchargé devienne finalement une règle de vie. Alors nous avons dans la Bible un certain nombre d'exemples. Tout d'abord, dans le livre du Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19, à la sortie de d'Égypte, une douloureuse expérience pour le peuple d'Israël. Et là, il y a un rappel, ce rappel est adressé à la nouvelle génération, de se souvenir. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Voyez comment la puissance des ténèbres s'est servie de cette tribu nomade, païenne, pour s'attaquer à Israël, et plus particulièrement à ceux qui étaient à l'arrière, extrêmement fatigués. Deutéronome 25, 17 à 19. Second texte, 1 Samuel, chapitre 14. Nous ne lirons pas l'ensemble du passage, mais il est question tout d'abord d'un exploit guerrier de Jonathan dans ce conflit qui a duré pendant des décades et des décades entre Israël et les Philistins. Et puis, à partir du verset 24 et jusqu'au verset 33, il est question du peuple d'Israël dans un état de grande fatigue et de l'attitude extrêmement charnelle, très peu sage, du roi Saül qui veut absolument pouvoir s'octroyer une victoire de plus et qui oblige le peuple d'Israël à lutter dans un état de grande fatigue en s'abstenant de nourriture. Et le verset 24 l'explique très bien, « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. » Et Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et puis tout le monde avait obéi, personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol, et lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Vous voyez qu'ils étaient disciplinés, hein ? Nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Mais Jonathan, ignorant le serment que son père avait fait faire au peuple, avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Une petite remarque très pratique au passage, nous le redirons dans notre conclusion, l'importance aussi de la nourriture et d'une nourriture saine. Voyez combien la Bible est pratique, une fois de plus. Puis vous avez cette précision à nouveau à la fin du verset 28, « Or le peuple était épuisé ». Et cette insistance du Saint-Esprit sur la fatigue de ce peuple. Même chose au verset 31, « Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des bœufs, des brebis, des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. » C'est-à-dire qu'il est tombé là dans la désobéissance à la loi de l'Éternel. Pourquoi ? À cause d'une situation tout à fait anormale, de grande fatigue liée à une mauvaise alimentation également. Voilà donc un second passage. Un troisième passage, 2 Samuel chapitre 17, versets 1 à 4. 2 Samuel 17, versets 1 à 4. Achitophel, qui était le plus proche conseiller de David et qui maintenant conseille Absalom, Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. » Vous voyez, c'était un bon conseiller, perfide, oui, mais qui savait que la fatigue est un moment favorable pour attaquer. Quatrième passage, 2 Samuel toujours, mais au chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21, versets 15 et 16. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles d'airain, il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il faut que tu prennes ta retraite. » L'heure est venue de changer de rythme et de genre d'activité. Quatre textes. Et quatre textes qui utilisent ce vocabulaire. Où manifestement, on réalise que le Saint-Esprit a voulu nous rendre attentifs à ce petit mot « fatigue ». La fatigue, vous le savez, émousse notre vigilance. Elle déforme notre vision des choses et des personnes. Vous avez certainement remarqué qu'en temps de fatigue, les problèmes prennent des dimensions tout à fait différentes que lorsque l'on est frais dispo. On évalue mal les valeurs. On a d'ailleurs de la peine à prendre des décisions. Ma femme sait très bien quand je suis fatigué. Quand je commence à avoir de la peine à prendre des décisions, à m'engager dans tel ou tel domaine, que j'hésite, que je reviens en arrière, que je repars en avant, que je danse sur les deux pieds, elle me dit, toi tu es fatigué. Et je sais que dans ces moments-là, il faut que je fasse extrêmement attention et que je m'abstienne de prendre des grandes décisions. Parce qu'en général, ce sont de mauvaises décisions. Nous avons encore un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui est très intéressant et qui nous montre que les répercussions peuvent être graves. Genèse 25, versets 29 à 34. Genèse 25, versets 29 à 34. Il est question de l'histoire bien connue d'Ésaü et de Jacob, chacun ayant aussi son tempérament, ses préférences. Verset 29, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Éda. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton trois d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous remarquez qu'en fait, dans ces quelques versets, trois fois, il est fait allusion plus ou moins directement à l'épuisement, à la fatigue de cet homme, Ésaü. Il est dit tout d'abord qu'il était accablé de fatigue. Ensuite, il le dit lui-même, « Je suis fatigué. » Et il le dit une seconde fois d'une autre manière pour montrer à quel point il était fatigué. Voici, « Je m'en vais mourir. » Et il est évident que même si l'excès de fatigue n'a pas été le facteur prépondérant dans la décision d'Ésaü. Cet excès de fatigue a joué un rôle dans sa démarche. La preuve, c'est que l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et dans les versets 16 et 17 nous montre qu'ensuite, il semble qu'Ésaü se soit secoué, n'est-ce pas ? Et que plus tard, il se soit rendu compte qu'il avait fait une grosse gaffe. Mais il était extrêmement fatigué. Oh, tout simplement parce que c'était un matérialiste, parce que tout dans sa vie tournait autour de la matière. Il donnait toute son énergie au seul exercice de ce qui correspondait à son métier, qu'il aimait. C'était un profane, nous disent les Écritures, c'est-à-dire un homme qui n'aimait pas, qui ne se plaisait pas dans la présence de Dieu. Il vivait hors du sanctuaire. Il avait un mauvais centre de gravité, si vous voulez. Mais la fatigue a été l'occasion pour le diable de pousser Ésaü dans le sens de son caractère matérialiste. Et le diable se servira de nos tendances naturelles, des domaines de fragilité dans nos vies, pour aller à l'aboutissement de ses desseins négatifs. Et il utilisera d'une manière plus particulière le terrain de la fatigue pour nous faire tomber dans les domaines où nous sommes particulièrement fragiles. Et vous le savez certainement, nous avons, quand nous sommes fatigués, des difficultés de concentration, des difficultés de réflexion, des difficultés de méditation. Et je crois, je suis convaincu, Bible en main, que pour le disciple de Jésus-Christ, la méditation, cette espèce de rumination spirituelle, dans la présence de Dieu, ce cœur à cœur, ce face à face est d'une importance capitale. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes très fatigué, votre vie de méditation en souffre. Vous avez de la peine à vous tenir dans la présence de Dieu. Et puis la fatigue nuit aussi à la qualité de l'action. Plus on est fatigué, moins l'action est bonne, moins le travail sera bien fait. Et puis en fonction des tempéraments, l'un dans sa fatigue sera irrité, aura les nerfs à fleur de peau, il sera excité, on ne le reconnaîtra plus. C'est curieux, qu'est-ce qu'il a donc mangé pour être comme ça en ce moment? Il sera agressif. Là où une autre personne dans la même situation de fatigue, mais à cause de cet autre type de tempérament, aura plutôt tendance au laisser-aller, à la somnolence, à l'abattement, à l'inertie, aux angoisses. Mais le résultat de la fatigue chez ces deux genres de réaction est la même. Au bout se situe par trop souvent, finalement, le découragement. Le découragement. Il arrive un moment où ça ne va plus. Faut-il ajouter encore que certaines sectes savent très bien utiliser la vulnérabilité des gens fatigués et tiennent à ce que leurs adeptes ou leurs futurs adeptes soient bien fatigués pour pouvoir les dominer. C'est intéressant, dans le dernier livre traduit en français de Billy Graham, La dernière chevauchée, Billy Graham y fait allusion en évoquant l'un des cavaliers sur le cheval blanc. Et il dit ceci: nous sommes vulnérables concernant le temps. Beaucoup trop d'entre nous sommes si occupés que nous trébuchons dans un étourdissement, épuisés, trop fatigués pour penser et encore moins pour nous remettre en question. Les chefs de secte gardent leurs membres très occupés. L'épuisement s'installe, la séduction suit. Au cœur du calendrier chrétien se trouve le jour du repos, et au centre de ce jour de sabbat, il y a le point de vue de Dieu sur sa création. À moins d'entretenir notre force physique, nous perdrons aussi notre résistance spirituelle et psychologique. Au centre du lavage de cerveau se tient l'épuisement. Le cavalier sur le cheval blanc aime nous voir trop fatigués pour résister. Cela rend son œuvre de séduction encore plus facile. J'ai relu une enquête concernant le problème des troubles du sommeil. Et au cœur de cette enquête se situe une statistique sur les cliniques qui se sont ouvertes aux États-Unis au fil des années et qui ne s'occupent que des troubles du sommeil. En 1972, c'est donc encore très récent, il y a donc une quinzaine d'années, on crée aux États-Unis la première clinique pour les troubles du sommeil. En 1976, 4 ans plus tard donc, 5 cliniques fonctionnaient aux États-Unis. En 1986, plus de 1000 cliniques fonctionnent aux États-Unis qui ne se consacrent qu'aux troubles du sommeil. Et actuellement, il y a dans les projets Objectif 1990 la création d'une clinique de sommeil attachée à chaque hôpital important. Alors vous voyez un petit peu la multiplication de ces cliniques d'ici 1990. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour nous qui appartenons au Christ et pour ceux qui se tournent vers le Christ d'éviter dans toute la mesure du possible les cliniques pour les troubles du sommeil? Est-ce que notre papa, avec tout le respect que nous lui devons, n'a pas des solutions pour nous? C'est ce que nous allons voir maintenant. En tout cas, combien il est nécessaire de veiller sur nos corps. Dans une vie de plus en plus fatigante à cause du bruit, du rythme de travail, des agressions de la vie moderne, je lisais ces derniers jours que la France est le pays dans lequel, en moyenne, l'ouvrier, à quelque niveau que ce soit, a le plus de vacances de tous les pays industrialisés actuellement, et largement en avance sur les autres pays. Or, vous êtes d'accord avec moi que de problèmes de fatigue, pourtant. Disons quand même qu'il est des fatigues auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Et je dirais même qu'il y a des fatigues, et parfois un peu difficiles à vivre, qui sont une nécessité, parce qu'elles nous ramènent à nos justes mesures, et parce qu'elles nous aident à sympathiser, à comprendre, à nous approcher de ceux qui sont peut-être plus fragiles. J'ai sous les yeux un extrait de méditation remarquable sur cette question. L'auteur dit ceci: tout d'abord, la fatigue est une initiation précieuse à la sympathie. Nous ne devrions pas en avoir besoin, mais il nous est parfois nécessaire de souffrir dans notre corps pour comprendre nos frères. Certains tempéraments robustes risquent de glisser dans une inconsciente dureté. Remercions Dieu de nous rappeler parfois la fragilité de nos forces et de nous permettre de prendre notre part d'une souffrance humaine rendue banale par sa fréquence, mais qui n'en est pas moins réelle. Et dans la fatigue, dit-elle encore, quelle leçon d'humilité! Aux heures de santé, de plénitude de nos moyens, nous nous croyons capables de grandes choses. La lassitude nous révèle nos limites. Elle nous apprend à ne pas compter sur ses propres moyens, desquels nous sommes si enclins à tirer gloire. Elle nous enseigne à abdiquer, à ne pas vouloir tout faire par nous-mêmes, à nous laisser conduire par Dieu. Heureux ceux qui, en pleine force, n'oublient pas ces vérités élémentaires. Mais lorsque Dieu, dans la patiente éducation qu'il nous donne sans se lasser, les rappelle à notre conscience, écoutons ses avertissements et offrons-nous à ses inspirations. Je crois qu'il était nécessaire de le rappeler parce que les uns sont enclins au suractivisme, là où d'autres, ayant tellement peur d'être fatigués, sont enclins à la paresse. Et on peut d'ailleurs même passer du suractivisme à la paresse. Et faut-il souligner au passage que les deux sont aussi pénibles, fatigants et décourageants l'un que l'autre. Alors simplement, quelques conseils et questions. Le premier conseil qui vient à l'esprit sera pour dire attention au coucher tardif qui se multiplie insidieusement. Le monde moderne vit de plus en plus la nuit. Il y a actuellement une sorte de léthargie qui s'installe pendant le jour et de grouillement, de fourmillement de vie pendant la nuit, de plus en plus. Or, la nuit nous a été donnée pour que nous puissions nous reposer. Et là où nous sommes, nous, disciples de Jésus-Christ, très concernés, c'est lorsqu'on prononce ce mot « télévision ». J'ai eu la joie, le privilège d'être l'orateur de camps de formation internationaux pendant une dizaine d'années au centre de la France. Et sur une dizaine d'années, j'ai pu me rendre compte de l'évolution de la situation, notamment au niveau des jeunes entre 18 et 30 ans. Et nous remarquions dans l'équipe de responsables que d'année en année, leur punch diminuait le matin. Et une année, c'était absolument catastrophique, une des toutes dernières années. Au point que je me suis décidé à poser des questions à certains jeunes venant de divers pays et je me suis très rapidement rendu compte que le point commun à leur fatigue, parce qu'ils étaient fatigués et très fatigués, c'est que pendant l'année, la plupart de ces jeunes, dans quelque pays que ce soit, passaient toute une partie de la nuit devant le petit écran. Et je suis absolument convaincu que la télévision est en train actuellement de nous jouer un mauvais tour. Je me réjouis de certaines utilisations de la télévision à la gloire de Dieu. Nous en avons eu l'illustration récemment. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'attaquer la télévision en elle-même. Mais je dois confesser qu'il faut beaucoup de maîtrise de soi, de maturité, pour bien gérer cet appareil. Il nous enchaîne facilement. Que les chaînes soient privées ou publiques, ce sont des chaînes. Et il faut quand même constater que dans nos pays occidentaux, et j'y inclus les États-Unis, ô combien la télévision n'améliore pas la spiritualité, bien loin de là. Et si nous donnions à l'étude de la parole de Dieu, au témoignage personnel, tout le temps que nous donnons à la télévision, mes amis, le monde ne serait pas ce qu'il est. Et quand vous allez vous coucher à, je ne vous dis pas l'heure, après avoir vu certains films, et quand je viens de terminer toute la préparation d'une série d'études sur le renouvellement de la pensée dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que le renouvellement de notre pensée? J'ai dû me pencher sur la question de la déformation de la pensée par la télévision. Ce nouveau type de mentalité que la télévision est en train de fabriquer. Cette banalisation des choses les plus horribles. Des perversions qui sont présentées parfois sous un tel jour qu'elles finissent par nous paraître acceptables. Parce qu'on s'arrange pour nous présenter ceux qui violent la loi comme des victimes. Et peu à peu, nous, disciples de Jésus-Christ, parce que nous passons tant de temps devant le petit écran, nous finissons par avaler, plus ou moins inconsciemment, toutes sortes de concepts qui modifient le monde de nos pensées. Là où la parole de Dieu parle du renouvellement de nos pensées, du renouvellement permanent de nos pensées, en vue d'une métamorphose complète qui nous permette de discerner la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Et c'est dans tout ce cadre que s'inscrit la fatigue. Quelle est la qualité de sommeil que vous aurez après avoir vu certains types de programmes? Vous allez dire, mais je dors comme une souche. Mais cela ne veut pas dire que la qualité de votre sommeil est bonne. Présidant l'an dernier une retraite de rentrée scolaire dans un institut biblique, non loin d'ici, un des étudiants de deuxième année est venu me voir et m'a dit, écoutez, j'ai longuement hésité à vous parler, mais j'aimerais le faire. J'ai un énorme problème et je ne sais pas comment le résoudre. Et c'est grave parce que je suis dans un institut biblique, je me forme pour le service de Dieu. Je ne retiens rien de ce que j'étudie. La lecture et la méditation de la parole de Dieu ne m'apportent rien. J'ai l'impression d'être une vraie passoire. Et vraiment, je me sens coupable, je suis découragée, je suis mal dans ma peau. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Dieu m'a simplement demandé de lui poser une seule question. Je lui ai simplement posé cette question, quelle place la télévision occupe-t-elle dans ta vie? Il m'a dit, mais c'est mon problème. Et alors nous avons eu un long entretien dans lequel il a parlé du temps qu'il passait devant la télévision. Cette boulimie de télévision quand il rentrait à la maison. Et ce véritable lavage de cerveau, cette espèce de paresse de son organe de réflexion, cet engourdissement, cette difficulté à se plonger ensuite dans les Écritures, quand on a passé quelques heures devant le petit écran. Vous avez déjà essayé de faire une bonne étude biblique après avoir passé du temps devant la télévision? Vous avez l'impression que vous devez rééduquer tout le monde de vos pensées. Vous avez acquis de nouveaux réflexes ou une absence de réflexes. Il y a une gymnastique qui manque. Et nous avons entrepris alors ensemble toute une thérapie de renouvellement du monde de ses pensées. J'ai dû lui donner un certain nombre de conseils très très pratiques qui commençaient par la coupure avec la télévision, pour lui c'était essentiel, mais qui devait se perpétuer par d'autres attitudes, ou se prolonger par d'autres attitudes. Mémorisation des Écritures, lecture à haute voix de la Bible, écriture de la parole de Dieu, toutes sortes de méthodes destinées à faire retravailler ses facultés intellectuelles complètement éthérées par l'abus de télévision. Alors que Dieu nous visite, vous voulez vivre une vie chrétienne consacrée au Seigneur, dans laquelle vraiment il est la place qui lui revient? Est-ce que vous êtes d'accord à ce que Dieu touche ce problème du doigt dans votre vie personnelle? Est-ce que le Christ est assis à côté de vous et se plaît dans les programmes que vous regardez? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, même si le programme est remarquable, le Seigneur vous dit maintenant, moi je vais au dodo. Toi tu peux rester. Mais demain matin, tu sais, on ne pourra pas se rencontrer. Parce que tu seras au fond de ton lit quand je serai au salon à l'heure où nous devons avoir notre rendez-vous ensemble. Vous avez remarqué comment, au fil des semaines, quand on prend l'engagement de se coucher suffisamment tôt, il y a des petites souris qui grignotent notre temps. Le premier soir, on se couche à 22h, le second, c'est 22h10, le troisième, c'est 22h15, et puis au bout de 8 jours, on se surprend à se coucher déjà à 23h. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais insidieusement, des souris ont rongé notre temps. Et puis on s'étonne parce que le matin, ça devient de plus en plus difficile de se lever. Or, je le disais au cercle de jeunes hier après-midi, je crois qu'il est beaucoup plus sage de rencontrer le Seigneur pour préparer sa journée le matin que le soir. Les hommes de Dieu, dans la Bible, se levaient de bon matin pour rencontrer le Seigneur. Le soir, oui, on passe un moment avec le Seigneur, mais on est plus usé, on est plus fatigué, c'est plus difficile, on a plus de peine à se concentrer. Alors on fait le point sur la journée. Et on s'endort avec le Seigneur. C'est ici qu'il faut peut-être dire deux mots de la réunionite. Il m'est arrivé de devoir dire dans tel ou tel entretien personnel, vous savez, même si ça risque de faire de la peine au pasteur de votre communauté, il y a des réunions que vous devriez éviter. Il faut que nous prenions le temps, d'une part pour les nôtres, et puis il faut que nous prenions le temps de nous reposer. Vivons peut-être pour certains d'entre nous moins de réunions, puis vivons-les de meilleure qualité. J'aime ces versets du psaume 127. Psaume 127, versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous de bon matin et vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. On peut s'agiter, faire beaucoup de choses. Est-ce pour autant que c'est Dieu qui le fait? Est-ce pour autant que c'est Dieu qui bâtit, que c'est Dieu qui construit, que c'est Dieu qui tient ses réunions? C'est la question que nous pose ce texte. Si ce n'est pas l'Éternel qui peut présider notre réunion, si ce n'est pas lui qui est au cœur de notre activité, même si l'activité est en apparence la plus spirituelle, nous la vivons en vain. Et le Seigneur, à ce moment-là, on donne autant à ceux qui en font moins et qui savent faire dodo à l'heure où Dieu veut qu'on soit au dodo. Alors, une fois de plus, ceci n'est pas une excuse pour les paresseux. Parce que c'est ça notre cœur, hein? Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Hein? Quand on ne veut pas être activiste, on devient paresseux. Non, Dieu s'adresse dans sa parole aux uns et aux autres. Nous avons besoin de sommeil, mais ni trop de sommeil, ni trop peu de sommeil. Alors d'une part, il y a déjà ceux qui ont besoin de plus de sommeil que les autres. Et nous retrouvons là les questions de tempérament. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se portent bien avec 4 ou 5 heures de sommeil. Quand j'étais stagiaire, tout à fait au début de mon ministère, je vivais à côté d'un couple dans un travail pionnier et l'épouse pouvait... Mère de 8 enfants pourtant, se contenter de 4 à 5 heures de sommeil. Et elle a fait ça pendant des années. Et encore aujourd'hui, elle se porte bien. Je crois qu'elle a ralenti, parce qu'elle a pas mal de cheveux blancs maintenant. Mais, vous savez, moi j'étais malade, souvent hospitalisé, et pourtant j'avais 25 ans. Je faisais petite mine à côté d'elle. Je n'en menais pas large. Et j'éprouvais le besoin de me reposer davantage. Mais vous savez aussi que prendre trop de sommeil, il est des grasses matinées qui n'arrangent rien. Quand vous sortez du lit après certaines grasses matinées, la tête est particulièrement lourde à porter. Et ça dure tout au long de la journée. Ah, Dieu a prévu pour chacun d'entre nous dans sa sagesse une mesure de sommeil qui correspond aux besoins de notre organisme. Et il est sage de vivre à l'intérieur des mesures de Dieu. Non seulement notre coucher ne devrait pas être tardif, sauf exception, et à ce moment-là, Dieu nous porte dans sa grâce. Pendant Mission France, combien ont dû veiller ? Presque des nuits complètes. Et moi-même, je faisais 220 kilomètres chaque nuit, pratiquement, pour être sur place, tout en préparant un voyage à Madagascar, puisque le dernier soir de la campagne, en pleine réunion, mon avion s'envolait pour Madagascar. Je vous assure que je n'étais pas fier dans l'avion, parce que j'étais fatigué. Et je savais qu'un très gros programme m'attendait à mon arrivée à Madagascar 24 heures plus tard. Et puis quand je suis sorti de l'avion à Tananarive, les amis qui m'accueillaient m'ont dit « Écoutez, demain matin à 7 heures, il faut qu'on revienne à l'aéroport et que vous remontiez dans l'avion pour aller au sud de Madagascar commencer vos conférences. » Alors je vous assure que je n'étais pas fier. Mais alors c'était une période particulière et Dieu donne sa grâce. Et Dieu m'a soutenu, m'a porté. Mais si je faisais ça tout le temps, vous ne me verriez pas aujourd'hui. Il importe aussi que notre coucher soit un coucher de qualité. Non seulement il faut se coucher à l'heure de Dieu, mais il est important d'avoir un bon coucher. Il est évident que si vous vous lancez dans l'étude de grands problèmes et dans des entretiens extrêmement profonds juste avant le sommeil, ça ne va pas forcément vous aider à avoir le meilleur sommeil qui soit. Il est important de pouvoir se coucher et de pouvoir s'endormir en paix, comme le dit le psaume 4 et le verset 9. Troisième réflexion, attention au repas. Et nous sommes en France. Tardif et copieux. Croyez-moi, en Afrique, à Madagascar, je ne dis pas cela. Mais nous, viande midi, viande le soir. Je crois que Dieu veut que dans ces domaines tout simples, nous soyons vigilants. Trop souvent dans nos pays, en Europe, nous avons un christianisme qui n'est pas au ras des pâquerettes, il est trop haut. Il se complaît dans des grandes dimensions très intellectualistes, planant au-dessus des réalités du quotidien. Dieu veut nous ramener au quotidien. C'est intéressant de constater que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la graisse dans les sacrifices était réservée à Dieu comme la partie noble. On donnait le meilleur au Seigneur. Mais je crois que là, Dieu avait en même temps une autre idée derrière la tête. Il voulait éviter au peuple d'Israël le cholestérol, n'est-ce pas ? Quatrièmement, savoir prendre des vacances en toute bonne conscience. Pour les uns, c'est facile, pour les autres, moins. Changer complètement d'activité pour se détendre. J'ai d'ailleurs écrit un petit article sur la question pour le journal de Mission France au début de l'été. Il faut que nous sachions prendre des vacances, couper avec nos activités habituelles, et que ce ne soit pas un temps dont nous rentrions plus fatigués, mais dans lequel nous privilégions non seulement les relations familiales qui sont tellement importantes, mais aussi la rencontre avec le Seigneur. On prendra avec soi une série de cassettes qu'on n'a pas pu entendre pendant des mois, qui étaient là sur notre cœur, et puis une boîte de crayons de couleur et sa Bible. Et puis on va passer du temps avec le Seigneur pour se reconstruire. Et puis on va se rendre compte quand on rentre de ce temps de vacances que on avait vu les problèmes tellement différents, tellement déformés. On a vu des grosses montagnes, n'est-ce pas? Et puis on se rend compte en rentrant que finalement tout est moins compliqué qu'on le pensait. Et même les autres nous apparaissent différents. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vie d'église. Rentrée de vacances, vous avez un autre regard sur les autres. Et puis cinquièmement, savoir ne pas se lancer dans des projets qui vont nous mener à l'épuisement, qui vont nous faire dépasser nos limites de résistance. On a pu constater que dans les statistiques de dépression, certains types d'activités menaient facilement à la dépression. Celui qui se lance dans la construction de sa maison et qui va devoir mobiliser ses énergies parfois pendant plusieurs années. Quelle usure! Je pense même que dans la construction de cette maison, d'où l'importance d'être sûr du plan de Dieu quand on se lance dans certains types de travaux. Et j'aimerais dire simplement quelques mots, avant de terminer, sur le jour du repos. Le jour du repos. En soulignant tout d'abord que cette question ne doit jamais faire l'objet de grandes controverses, de grandes discussions. Puisqu'il est des textes dans la Bible qui nous indiquent que nous devons être modérés dans ce domaine. Il nous est dit, par exemple, dans Colossiens 2,17, que les sabbats de l'ancienne alliance étaient les ombres des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Et qu'il importe tout d'abord, et c'est là le sens, que nous trouvions en premier lieu notre repos en Jésus-Christ. Quand Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos », il y avait deux dimensions. Il y avait une première dimension, la nécessité d'un repos du cœur. Et Dieu nous le redit en Jésus-Christ cet après-midi. Si vous êtes fatigué, lassé spirituellement, nerveusement, moralement, eh bien Jésus vous le dit cet après-midi, venez à moi. Venez à Jésus-Christ. Simplement pour déposer. Pour lui dire, Seigneur, prends-moi, je ne peux plus porter. Je suis écrasé, je ne sais pas comment m'en sortir. Et les gens, les hommes ne peuvent pas m'en sortir. Alors je viens déposer. Le vrai repos est là. C'est d'abord le repos du cœur et ensuite le repos du corps. Si nous sommes fatigués et chargés, nous venons aussi à Jésus-Christ, même dans notre fatigue physique, et Jésus nous dit, va faire dodo. Va te reposer. Alors il se trouve que dans l'Église primitive, le premier jour de la semaine, le dimanche, a pris la place du sabbat comme jour de rassemblement des croyants pour rompre le pain et pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs textes nous l'indiquent, déjà au moment de la résurrection de Jésus, dans Jean 20, versets 19, 26, et même au verset 1er, le premier jour de la semaine, jour de la résurrection, et puis dans Actes 20, verset 7, on rompait le pain. 1 Corinthiens 16, verset 2, on mettait de côté le premier jour de la semaine ce que l'on destinait au Seigneur. Tout était au Seigneur, mais d'une manière plus particulière, au fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ, là dans le domaine de la solidarité vis-à-vis des pauvres de l'Église. Ça veut dire qu'on ne pratiquait pas la libéralité au petit bonheur, la chance. On n'allait pas de temps en temps au fond de ses poches compter les quelques pièces qui restaient. Non, premier jour de la semaine, on faisait vraiment une mise au point sérieuse en tenant compte de l'enseignement des Écritures. Alors la seule chose que j'aimerais souligner cet après-midi, c'est poser cette question. Est-ce que la réalité spirituelle, cette importance du repos spirituel, doit totalement effacer la dimension de repos physique et nerveux, c'est-à-dire de respect du premier jour de la semaine? Et je pose la question parce que on peut lire de plus en plus d'articles qui tendent à aller dans cette direction, en montrant que, après tout, il faut spiritualiser ces choses. Personnellement, je crois que le repos hebdomadaire occupe une grande place dans les Écritures. Et il y a ce texte fondamental d'Exode 20, versets 8 à 11. C'est d'ailleurs le commandement le plus long, c'est à souligner au passage. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Vous avez remarqué que 4 versets dans ces 10 commandements sont consacrés uniquement au jour du repos. Et que ce commandement fait référence au récit de la création. C'est-à-dire qu'il dépasse une dimension simplement judaïque. Il nous est dit qu'un jour, Dieu c'est reposer. Et le terme hébreu peut se traduire « Dieu a cessé, Dieu s'est arrêté ». Et si Dieu s'est arrêté, pourquoi est-ce que nous ne nous arrêterions pas? Il faut aussi remarquer que la transgression de ce commandement concernant le sabbat était lourdement sanctionnée. Il y a un cas de lapidation pour quelqu'un qui avait osé ramasser du bois le jour du sabbat. Nombre 15, versets 32 à 36. Et je crois que ceci souligne que dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu, le repos hebdomadaire était extrêmement important pour le bien du peuple d'Israël. Le jour du repos n'est pas un rite, ce n'est pas une tradition gratuite, mais c'est une nécessité. C'est un commandement qui correspond à un besoin. Ce n'est pas une brimade, mais c'est un commandement libérateur et réparateur. Et je le vois personnellement comme une véritable ordonnance médicale, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. pour conserver un équilibre spirituel, psychique, physique. À condition justement de respecter ce que Jésus disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Et je suis persuadé qu'on n'escamote pas continuellement ce jour sans en subir les conséquences. Même si je ne fais pas mon salut par le respect d'un jour de repos, je crois que le jour de repos permet l'épanouissement dans le vécu de mon salut. Et ceci n'est pas sans importance. Alors bien sûr, il ne faut pas ignorer les problèmes qui sont liés aux contraintes de notre temps. L'exercice de certaines professions, légitimes, parce que le monde est ainsi fait, on a créé des besoins au fur et à mesure, et bien il faut maintenant aussi pourvoir à l'intendance, pour assumer ces besoins. Mais il faut dire au même moment que dans certaines situations, un choix courageux est parfois nécessaire au départ. Quand on envisage l'exercice d'un métier, et je suis frappé dans l'Ancien Testament de voir les promesses que Dieu donnait à Israël concernant le respect du repos. Exode 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Vous avez cette indication, et le peuple d'Israël était donc un peuple de caractère rural, travaillant dans les champs, s'occupant des troupeaux. Et il est dit, un petit peu plus loin, dans les versets qui suivent, verset 23, « Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. » Quelle promesse ! N'aie crainte ! Dans ce temps où tu te reposeras, je veillerai tout particulièrement sur toi. Et il y a d'autres textes, Lévitique 25, versets 1 à 7, et d'autres encore. Nous allons devant de temps difficiles. L'empreinte du christianisme s'efface peu à peu et tout conduit, vous le savez, à ce que le dimanche soit jour ordinaire. Nous revenons, semble-t-il, à cette période de la Révolution française en 1793 où la septaine, la semaine de 7 jours, était remplacée par la décade républicaine, semaine de 10 jours. Alors bien sûr, il ne faudrait pas que nous tombions dans un légalisme pharisaïque. Vous savez que les rabbins avaient multiplié les commandements pour le jour du sabbat. Il y avait 39 travaux qui étaient défendus, et les rabbins avaient établi les dérivés de ces 39 travaux, et cela revenait à une liste de 1521 actes interdit le jour du sabbat. Vous vous rendez compte ? Il fallait se promener avec un énorme bottin et puis de temps en temps, mais on n'avait pas le droit. On n'avait même pas le droit de transporter un gros bottin. Comment faire ? Et alors il y avait de ces commandements. Interdit de faire ou de défaire un nœud. D'écrire plus de 2 lettres de l'alphabet. Était-il permis de manger un œuf pendu par une poule le jour du sabbat, parce qu'elle avait transgressé le jour du sabbat la poule? Est-ce qu'il était interdit d'abattre un animal? Mais on avait un problème. On avait un problème quand on découvrait un pou chez soi. Et il y avait 2 écoles concernant les poux, parce que le pou était aussi un animal qu'il fallait peut-être abattre. Alors il y avait une école de docteurs, de rabbins très rigoureux qui s'opposaient à cette affreuse profanation. Il ne fallait surtout pas écraser un pou. Mais il y avait des docteurs moins rigoureux qui permettaient qu'on lui coupe les pattes. C'est sérieux ? Vous aviez l'interdiction d'éteindre l'incendie si la maison était en feu, mais par contre, vous aviez la permission de sauver certaines choses dont la liste avait été soigneusement établie. Alors, vous étiez devant votre maison en feu et vous consultiez votre liste par Minitel. Ah, on n'avait pas le droit d'utiliser le Minitel. S'il vous arrivait de jeter un morceau de fruit en l'air, comme ça, pour jouer, pour le rattraper, il était interdit de le rattraper si le jour du sabbat vous surprenait à cet instant. Sauf si vous le rattrapiez avec la bouche et l'avaliez. Il ne fallait pas utiliser ses mains. Alors vous comprenez que le problème, c'était qu'au lieu d'être un jour de joie, un jour de repos, un jour de détente, c'était devenu un véritable rabat-joie. C'était un jour d'esclavage. Et on comprend la réaction du Seigneur Jésus. Vous êtes frappé par le nombre de fois où il est question du sabbat dans les évangiles. Mais à tout bout de champ, Jésus intervient dans ce domaine. Et c'est peut-être ce qui nous a poussé à aller un peu à l'autre extrême actuellement. J'ai sous les yeux la petite anecdote suivante, l'histoire d'un chrétien qui travaillait le dimanche en disant « La Bible dit bien que tu as la permission le sabbat de retirer de la fosse ton bœuf qui y est tombé. » Luc 14, verset 5. Et c'était l'évangéliste Moody qui était en face de ce croyant. Et Moody a répondu simplement « Certainement. Mais si mon bœuf tombait tous les dimanches dans la fosse, ou bien je comblerai la fosse, ou bien je vendrai mon bœuf. » Alors comment est-ce que nous devons le concevoir ce jour du repos, sans tomber dans le légalisme, sans vouloir mettre sur les autres un joug par nos jugements sur tel ou tel détail de leur attitude, n'est-ce pas? Nous avons dit, nous ne devons pas discuter de ces choses. Romains 14 dit que les uns font des différences, les autres ne font pas, on ne va pas se battre là-dessus. Mais il y a quand même un principe dans les Écritures, et c'est sur ce principe que nous voulons rester, n'est-ce pas? Que personne, après cette réflexion, cet après-midi, ne commence à scruter très attentivement la manière dont l'autre vit le dimanche. Hein? Eh bien, le jour du repos, ce jour, aujourd'hui, ça tombe bien cet après-midi. Hein? C'est un jour sanctifié. C'est-à-dire, c'est un jour séparé. Un jour différent des autres jours. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sanctifiés, mais celui-là est encore plus sanctifié. Non pas que nous ayons le droit de vivre n'importe comment les autres jours. Mais il est sanctifié dans ce sens qu'il se veut rupture avec le travail quotidien. Il est nécessaire pour une décrispation, pour sortir du tourbillon des préoccupations habituelles. C'est un jour où l'on ne parle pas du travail. C'est un jour de changement. C'est un jour de coupure. C'est cela le sens aussi du mot sanctifié. On brise une succession. On brise une répétition de journée. Mais imaginez un seul instant que pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours soient exactement semblables. Cette répétition machinale. Dieu nous rappelle que nous vivons un rythme plutôt qu'une marche monotone. Et nous vivons un rythme qui, dans son plan, est un rythme sacré. Et on vit à l'heure actuelle la désacralisation de tout. Et c'est mauvais. Et puis c'est un jour sanctifié dans ce sens que c'est un jour consacré. C'est un jour mis à part pour. Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et au verset 15, ce jour-là, donc, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Oh, que j'aime ça! Mais on devrait exploser de joie le dimanche, mes bien-aimés. Pourquoi? Mais parce que c'est un anniversaire. C'est le jour souvenir. C'est la célébration d'un anniversaire fantastique, celui de ma libération. Pour le peuple d'Israël, c'était ça. Ce jour-là, il se souvenait d'une manière toute particulière qu'un jour, il avait été libéré de l'esclavage d'Égypte. Moi, je voudrais que nous vivions nos dimanches en nous souvenant que nous avons été libérés de nos esclavages. Vous ne croyez pas que ça serait fantastique? De pouvoir, dans le culte, le matin, faire monter notre hommage en disant « Seigneur, mais tu m'as libéré !» Sans grande prière. En 3 points avec introduction et conclusion. Mais simplement le cri du cœur. Seigneur, je te bénis. Je vis aujourd'hui l'anniversaire de ma libération de semaine en semaine. Vous savez que ma femme et moi, nous vivons notre anniversaire de mariage tous les mois. Tous les 10 du mois, on se souhaite un bon anniversaire. Nos enfants n'ont pas compris au début. Ils se demandaient, puis on leur a expliqué. Alors maintenant, ça va. Mais ça crée comme ça, hein. Un cycle. On a des points de repère, ça nous fait du bien. Mais Dieu a prévu ce cycle de 7 qui a tant d'importance dans les Écritures, qui forme toute une entité, n'est-ce pas? Et 7 est le chiffre de Dieu dans les Écritures. Il y a là comme un cycle qui s'achève pour que nous puissions nous souvenir perpétuellement d'où nous avons été sauvés. Et puis, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le jour souvenir de la résurrection du Christ. C'est un jour de fête. Ce n'est pas une fois par an que nous disons « Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». C'est tous les dimanches. Là encore, combien nos vies d'église devraient être marquées par cette fête. Et puis, c'est le jour d'inauguration de l'Église de Jésus-Christ. C'est intéressant aussi ça, n'est-ce pas? À la Pentecôte. Je fête ce souvenir. Un jour, l'Église a été créée. Et tous les dimanches, je fête cet anniversaire de la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Mis à part pour Dieu. Et la Bible dit dans Lévitique 23, verset 3, que c'était ce jour-là, il y avait une sainte convocation de la part de l'Éternel. On s'arrête calmement pour le contempler, pour l'adorer, pour apprendre de lui. On réajuste ses priorités, on rectifie le tir, on remet sa montre à l'heure juste. On fait des mises au point dans la communion de l'Église, on se souvient, on célèbre. Et c'est l'occasion de redémarrer du bon pied. On ne va pas le faire. Mais il faudrait pouvoir le faire. Dire, mais qui a envie de vraiment, à la suite de ce week-end, profiter de ce dimanche pour redémarrer du bon pied? Et, ou qui sait, pour démarrer du bon pied? C'est l'occasion. Le dimanche est là comme un point de repère pour bien recommencer. Prendre du temps devant la Bible, dans la prière. Comme le disaient certains Africains dans les jungles d'Afrique qui s'arrêtaient de temps en temps parce qu'ils trouvaient qu'ils allaient trop vite. Et quand on leur demandait pourquoi ils s'arrêtaient, ils disaient « Mais nous attendons que nos âmes puissent rattraper nos corps. » Eh bien, le dimanche, c'est ça. C'est le moment où, oui, parfois il le faut, nos âmes doivent rattraper nos corps. On va tellement vite dans la semaine. Et toute la partie spirituelle est à la traîne, et c'est dommage, ce n'est pas normal, mais... Mais le dimanche peut nous aider à ce qu'il y ait à nouveau une unité dans notre personnalité. Le premier jour de la semaine, c'est le repos en Christ avant le travail. Le fondement de la semaine est posé. Christ est bien le premier. Et quand le dimanche je mets ce jour à part, cela signifie que je donne une importance absolue à Christ et je considère le travail simplement comme une nécessité. Vous faites la différence ? Christ d'abord, le travail ensuite, sous la coupe, sous la domination de Jésus-Christ. Et il me reste simplement, et je termine, à dire que si c'est un jour mis à part pour Dieu, c'est un jour mis à part pour la proche famille. Pour la cellule familiale. C'est un jour plus spécialement consacré aux siens, pendant lequel on peut prendre plus de temps avec les siens et réajuster les liens familiaux. Et je crois que ce jour-là a beaucoup d'importance aujourd'hui en ce qui concerne les liens familiaux. Et c'est pour cela que je ne suis pas pour la réunionnite. Parce que nos vies de famille sont tellement disloquées pendant la semaine avec les horaires que nous avons. Le type de vie que nous avons, nous courons les uns après les autres continuellement dans nos vies de famille, vous le savez. Mais alors si le dimanche n'est pas là pour nous réunir, pour que nous puissions passer du temps vraiment ensemble, quand cela se fera-t-il ? Alors il est intéressant de constater que dans Exode 20, verset 10, il était dit que c'était un jour de repos pour toute la famille. Toute la famille. Les animaux y étaient même inclus. Alors si c'est un jour de repos pour toute la famille, je suis heureux de dire à mes sœurs que c'est un jour de repos pour l'épouse et pour la mère de famille. Et ça ne va pas toujours de soi. C'est donc un jour où on évite les festins, les repas qui demandent beaucoup de travail et de vaisselle. Vous savez quel est le moment le plus pénible pour moi ? C'est le dimanche lorsque je suis invité dans une famille après le culte et que la mère de famille n'est pas venue au culte pour me préparer un bon repas. En général, je mange de très mauvais appétit. Je suis très mal à l'aise. Il est donc important ce jour-là de partager les responsabilités. On travaille quand même, hein. De savoir se faire aider. De refuser de se laisser constamment engloutir par un afflux de visites. Ou précisément la multiplication des réunions. La cellule familiale n'est pas une salle des pas perdus. Il faut préserver le dimanche pour un vrai repos et non pour un épuisement nerveux. Pour une hospitalité paisible. C'est le moment d'inviter ceux que l'on ne connaît pas, mais pour quelque chose de tout simple. Non pas pour la bouffe, comme on dit, mais pour le contact. C'est le moment d'inviter cette personne seule, avec laquelle on pourra aussi passer un moment, mais dans le caractère paisible du foyer, avec les enfants, tout le monde ensemble. C'est un jour de fête qui nous évitera de dire « je hais les dimanches ». Vous connaissez, hein ?« Je hais les dimanches ». Un jour de loisir pour tous, de détente avec les enfants, d'écoute réciproque et de partage. Voyez-vous, bien des drames, bien des dépressions, bien des découragements ont pour origine, avec d'autres facteurs, c'est vrai, la négligence aussi du jour de repos quand on aurait pu vraiment le respecter, le vivre. Non pas par l'égalisme. Mais comme un cadeau que notre papa nous fait à nous, qui sommes ses enfants dans son amour. Et peut-être dans la perspective de ce temps où ce jour n'existera plus. Et où alors Dieu nous fera la grâce de pouvoir vivre sans ce jour. Mais puisqu'il nous le donne, puisqu'il y a encore quelques marques de cette empreinte du christianisme, pourquoi ne pas en profiter ? Alors que Dieu nous accorde la grâce de vivre dans cette juste perspective du repos et d'accepter les traitements que Dieu a donnés avec beaucoup d'amour aussi à Élie, Il lui a donné de la bonne nourriture servie par des anges. Il a permis un gros dodo. Il lui a donné du temps à l'écart pour faire le point dans le calme du désert. Il lui a fait faire de la marche entre 300 et 400 kilomètres de Beersheba au Horeb en 40 jours, ce qui représentait grosso modo 10 kilomètres à pied par jour dans le désert. C'était peut-être ce dont Élie avait besoin. Ça aussi, ça joue dans l'équilibre, n'est-ce pas ? Nous marchons si peu. Et puis il a pu faire un agréable séjour en maison de convalescence à Horeb sous les rochers, avec une thérapie appropriée dirigée par Dieu en personne. Alors que Dieu bénisse ce qu'il lit comme désir d'obéissance dans nos cœurs à sa parole. Vous remarquerez que nous ne sommes pas arrivés au bout. Alors, comme une nouvelle série est prévue dans votre église, ici, au mois de novembre, nous aurons encore 4 études pour aller au bout du sujet. Nous verrons au cours de ces 4 études, dans 2 études, les 2 derniers aspects, les 2 derniers facteurs, puisque nous en avons vu 5, et dans les 2 études du dimanche, nous allons simplement ensemble scruter attentivement la vie d'un homme de Dieu dans la Bible qui a été une source d'encouragement fantastique pour tous ceux qui l'a côtoyé. Et nous verrons comment cet homme de Dieu a vécu en source d'encouragement dans l'Église primitive. Ce sera la meilleure illustration pour montrer comment on peut aussi encourager autour de soi. Nous sommes appelés à être aussi de ceux qui encouragent dans l'Église. Alors que Dieu prépare dans sa volonté, s'il n'est pas revenu, s'il nous prête vie, ce prochain week-end et qu'il nous aide dans notre témoignage d'ici là. Nous voulons prier simplement. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier de tout notre cœur parce que nous reconnaissons que tu es un Dieu sage. Oh, tes pensées sont bien loin au-delà de nos pensées. Tes voix ne sont pas nos voix. Et nous reconnaissons devant toi notre folie. Combien nous sommes coupables de nos découragements. Et c'est vrai, Seigneur, que nous les avons parfois cherchés. Mais nous te bénissons pour tout ce que nous dit ta parole. Et nous te demandons la grâce de la mise en pratique. Heureux ceux qui écoutent ta parole et qui la gardent, qui la mettent en pratique. Une fois de plus, sois remercié parce que tu es venu habiter dans nos vies. Tu ne nous demandes pas de serrer les poings et de serrer les dents et de travailler dans l'énergie de la chair. Tu fais appel à notre volonté, mais pour qu'elle s'appuie sur ta grâce, sur ton esprit. Nous te bénissons pour tout ce que tu mets à notre disposition, pour que ta parole s'incarne dans le quotidien de nos vies. Bénis-nous, Seigneur, et nous te bénissons, et nous te remercions. Et nous voulons vraiment, Seigneur, apprendre à combattre, à refuser le découragement, en mettant en pratique tout ce que tu as partagé avec nous. Et tu veux nous raccompagner afin que nous vivions cette semaine en l'ayant bien commencé. Nous avons donner honneur et gloire à ton nom. Nous avons voulu te dire aujourd'hui, dans ce premier jour de la semaine, que tu es notre Seigneur, non pas seulement notre Sauveur, mais le Seigneur de nos vies. Seigneur, nous voulons vivre tout le prolongement de ce premier jour dans ce climat-là. Vivre notre travail sous ton regard, contrôlé par ta Seigneurie. Merci de ce que nous puissions entrer dans le repos pour travailler ensuite. et non pas faire l'inverse. Et sois glorifié, Seigneur, une fois de plus pour ta sagesse. En Jésus-Christ. Amen.